Bien, alors, reprenons. Donc aujourd'hui, on va parler d'arbres généraux, et dans une application particulière qui sont effectivement les fichiers, les répertoires, etc. Et on va aboutir à une dernière notion qui n'est, comment dire, qui on a celle qu'on appelle de expression symbolique ou de S-expression en abrégé, qui est une notation qui existe dans les langages de la famille Scheme, et qui est particulièrement agréable pour manipuler des arbres, et on terminera par ça. Alors regardons un petit peu les systèmes de fichiers. Donc les systèmes de fichiers, vous y êtes habitués, vous avez maintenant, je dirais, vous êtes né avec la notion de dossier, on clique dessus, ça s'ouvre, on voit des documents, des dossiers, etc., etc. Eh bien, cette chose-là, cette vision-là existe depuis à peu près 1970, avec un système de, qui s'appelait Unix, et qui a introduit cette vision arborescente. Donc ce qu'on va voir, c'est qu'il y a un certain nombre d'utilitaires sous Unix, qui s'appelle DU, LL, Find, etc., et qui permettent de se balader et de calculer des propriétés sur un système de fichiers. Donc DU est une commande qui s'appelle Disk Usage, qui permet de savoir quelle est la taille du système de fichiers, c'est-à-dire en fait la taille cumulée de tous les fichiers qui se trouvent dedans. Vous avez une autre commande qui s'appelle LL, qui est une abréviation pour un truc pour ls-l, et qui permet de lister un répertoire, c'est-à-dire de savoir qu'est-ce qu'il y a dans le répertoire comme dossier et comme documents, et surtout quelle est la taille des documents. Et enfin, le dernier, Find, est un utilitaire qui permet, lorsqu'on cherche quelque chose, de pouvoir chercher les fichiers qui portent tel nom ou ont telle ou telle qualité particulière. Donc on va voir ces trois utilitaires et on va voir effectivement comment en fait ils sont programmés avec nos arbres généraux dont nous disposons. La programmation sous Unix ou sous Windows est de la même nature, mais utilise d'autres arguments et d'autres langages. Alors, le système de fichiers va être représenté par un arbre général, et vous savez que tous les arbres généraux se distinguent par une étiquette particulière, qui est l'information portée par les nœuds. Là, l'information qui est portée par les nœuds, puisqu'on a des répertoires et des fichiers, ça va être un descripteur, et en fait, dans ce descripteur, on trouvera un certain nombre d'informations. Est-ce que c'est un fichier? Est-ce que c'est un répertoire? Si c'est un fichier, quelle est sa taille? C'est voilà le genre de descripteur que l'on va trouver. Alors prenons tout de suite, rentrons dans le vif du sujet. Vous savez que chaque fois qu'on introduit un nouveau type de données, on introduit des fonctions qui sont capables de construire ce type de données, d'accéder à ce type de données ou de le reconnaître. Donc on va avoir deux constructeurs, un constructeur qu'on appelle fichier et un autre qu'on appelle répertoire, puisque ce sont les deux choses que l'on va fabriquer particulièrement. Un fichier, c'est simplement, et là on est dans une vision effectivement extrêmement simpliste des choses, un fichier c'est simplement un nom et une taille. Okay? Actuellement on fait complètement abstraction du contenu du fichier, on ne s'y intéresse pas, on schématise un fichier comme étant une chose qui a un nom et qui a une taille. Et donc avec ce nom et cette taille, on fabrique un descripteur de fichier. Pour les répertoires, ça va être encore plus simple. Un répertoire, c'est quelque chose qui possède un nom et qui dit simplement « je suis un répertoire, point ». Donc nous avons nos deux constructeurs de descripteurs pour les fichiers et pour les répertoires. En termes de reconnaisseurs, on s'aperçoit que notre type abstrait, qu'on appelle descripteur ici, il y a deux catégories de descripteurs. Les descripteurs de fichiers et les descripteurs de répertoires. Donc il faut avoir un moyen de pouvoir discriminer si on est dans tel cas ou dans tel autre cas. On voit bien que, bien sûr, fichiers et répertoires ont tous les deux un nom, mais seuls les fichiers ont une taille. Donc il nous faut un moyen de distinguer si on est un fichier ou un répertoire. Nous avons choisi de prendre fichier, et donc fichier est un prédicat, ce qui se remarque avec le point d'exclamation qui se trouve ici, qui dit, si vous me donnez un descripteur, je vous répondrai un booléen qui vous dira si oui ou non c'est un fichier, ou bien sûr, si ce n'est pas un fichier, ça sera un répertoire à ce moment-là. Enfin, les accesseurs. Les accesseurs, c'est ce qui permet donc de sortir de l'information des descripteurs. On en trouve donc bien sûr deux. Un qui est commun à tous les descripteurs, qui est effectivement le nom ici, qui dit « si vous me donnez un descripteur, je vous donnerai le nom de la chose », que ce soit le nom d'un répertoire ou le nom d'un fichier. Et là, on a une fonction qu'on appelle souvent polymorphe, parce qu'elle est capable de s'appliquer effectivement à deux sortes de choses. Et enfin, la taille, qui prend un descripteur et qui répond à un entier naturel, mais qui ne marche, bien sûr, que si on lui donne un descripteur de type fichier, puisque seuls les fichiers ont une taille. Donc voilà en fait le jeu des fonctions. Vous l'avez vu, on a deux constructeurs, un reconnaisseur, deux accesseurs, Et là, encore une fois, c'est notre barrière d'abstraction. On n'a pas besoin de savoir comment c'est fait à l'intérieur. On verra une définition tout à l'heure. C'est la chose, c'est l'ensemble de fonctions qui nous permet de manipuler ce nouveau type de descripteur. Alors, là, je pense qu'on a un dessin d'un petit répertoire. Non, on a une superbe capture d'écran qui vous montre effectivement des répertoires. Donc ici, un répertoire qui contient deux répertoires et un fichier, qui contient lui-même deux fichiers ici, qui contient lui-même un sous-répertoire qui contient un sujet et deux fichiers qui se trouvent ici. Donc ça, vous êtes habitué, c'est une version arborescente du système de fichiers que vous pouvez représenter de multiples manières. Et la seule chose qui nous intéresse, c'est qu'effectivement, pour chacun des fichiers, il y a une taille qui se trouve en face. Et c'est cette taille qui nous intéresse pour l'instant, la taille des répertoires que vous voyez ici n'ayant strictement aucun intérêt pour l'instant. Alors, la chose que l'on a vue là précédemment, et qui correspond donc à cette vision-là, vous pouvez la représenter, et c'est ce qu'on va faire, avec un arbre général. Donc vous voyez un arbre général, donc il faut un peu d'imagination. La racine de l'arbre général se trouve ici. Et en fait, en penchant la tête un peu à 45 degrés, vous voyez que l'arbre général a trois fils qui sont TP2, TP3, EXO2.SCM, que lui-même, ce fils-là, a deux sous-fils qui sont effectivement deux fichiers, EXO10 et EXO8. Donc la vision arborescente, on sait la refabriquer, et la voici. Donc la voici en fonction de la barrière d'abstraction, le même arbre représenté donc avec des arbres généraux. Donc voici l'exemple de fichier, enfin de système de fichiers. Vous avez un nœud donc qui dit je porte comme étiquette le fait d'être un répertoire qui s'appelle MI14MX. Dans ce nœud, on trouve une liste de fils, et chacun des fils est en lui-même un système de fichiers. Parmi ces fils, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve, rappelez-vous, qu'il y avait deux répertoires, en voici un, en voici l'autre, et un fichier qui s'appelait exo2.scm, et qui a une certaine taille qui se trouve ici. Comme on a décidé donc de représenter les fichiers par ce descripteur et qu'il faut en faire un nœud de l'arbre général, on a ici un arbre général qui contient en fait aucune feuille et aucun fils, ce qui veut dire que donc il a bien la forme d'une feuille. Et donc vous retrouvez, si je le dessine, la structure représentant la fenêtre que vous avez vue précédemment, à savoir un nœud particulier qui s'appelle MI14MX et qui est un répertoire, ce que je dessine en gros comme ça là. Vous avez trois fils dont un est effectivement un fichier, qui est le fameux fichier exo2.scm, et qui ne contient rien derrière, c'est pour ça que je le laisse comme ça. Vous avez un répertoire nouveau qui s'appelle TP2, donc qui est encore un répertoire, et vous avez un répertoire TP3 qui est encore un répertoire qui se trouve comme ça. Et donc là encore, si maintenant je regarde TP2, je m'aperçois que la liste des fils de ce nœud-là, c'est deux nœuds particuliers, qui sont le fichier EXO8 et EXO10. Donc voici EXO8 et voici EXO10. Bien, alors, comme on a effectivement fabriqué des descripteurs de fichiers, pour chacun de ces fichiers, on a introduit la taille du fichier particulier, 80, 100, 20, etc., qui sont les tailles que vous avez pu voir sur la fenêtre précédente. Donc cette expression-ci, en fait, est rigoureusement équivalente au schéma près à la fenêtre précédente. La fenêtre précédente n'est qu'un algorithme qui a affiché l'arbre qu'on voyait juste après sous une forme graphique avec des petits dessins, etc. Ceci est encore une forme de l'arbre, mais la structure profonde, comme dirait Chomsky, de cet arbre-là, c'est l'expression qui se trouve ici et qui permet de le construire. Donc vous avez ici votre arbre général avec ses répertoires et ses fichiers, et en fait on va maintenant regarder sur cet exemple-là comment programmer les différents utilitaires que l'on souhaitait. Donc ça, c'est encore la visualisation de la même chose qui se trouve ici. Simplement, vous voyez les répertoires ici et un sous-répertoire d'un répertoire qui est lui-même un fils de ce répertoire-ci. Donc tous les répertoires sont préfixés par un D- ici et bizarrement, les fichiers sont précédés par un D-, ce qui ne devrait pas être le cas. Bien. Alors, première utilitaire, on s'intéresse maintenant à un système de fichiers et on se dit, j'aimerais bien savoir quelle est la taille que prend ce système de fichiers. C'est une opération assez simple que, par exemple, lorsque vous désirez copier un répertoire et tout ce qui se trouve dedans sur une disquette, vous allez bien sûr vous poser la question au bout d'un moment, est-ce que le répertoire que je vais mettre et tout ce qui en dépend tient sur la disquette ou pas? Pour faire ça, rien de plus simple, tous les systèmes d'exploitation commencent par faire un calcul sur l'arbre, le système de fichiers, pour savoir si la somme cumulée de tout ce qu'il y a à mettre sur la disquette tient sur la disquette ou pas. À condition, bien sûr, de connaître la taille de la disquette, ce que l'on jugera par ailleurs. Alors, DU-S est une commande en Unix qui permet donc, comme je disais, de faire disk usage, c'est-à-dire donnez-moi la taille, et moins S, donnez-moi la taille cumulée du tout, c'est-à-dire je ne souhaite pas avoir les renseignements répertoire par répertoire, mais avoir simplement un unique chiffre qui représente la taille complète du système de fichiers. Donc je prends un système de fichiers, et je dois avoir donc, en fonction de ça, si je reviens pour indiquer les tailles, je vais les renoter. Nous avions un fichier exo2.sm qui valait 20 octets. Nous avions un fichier exo8 qui en valait 80. Un fichier exo10 qui en valait 100. On avait encore d'autres choses ici qui étaient un fichier corrig qui en valait 200. Un fichier exo8 encore qui valait 88. Et un sous-répertoire tp seul qui contenait un fichier sujet.scm qui valait 300 octets. Et ceci était encore un répertoire machin. Donc, ce que l'on voit en fait pour connaître la taille de ce système de fichiers, c'est en fait très simple, il faut arpenter l'arbre, et chaque fois qu'on voit un fichier qui a une certaine taille, l'additionner de manière à faire la somme cumulée de tous les fichiers qui se trouvent dans cet arbre-là. Et donc en gros, il s'agit de parcourir cet arbre-là, et de faire la somme de toutes les tailles des fichiers. On suppose, bien sûr, dans cet exemple, qu'un répertoire ne coûte rien, c'est-à-dire ne représente strictement que 0 octet sur la disquette où on veut sauvegarder. Donc, qu'est-ce que l'on a? On voit qu'on a un arbre ici, on voit qu'on a arpenté cet arbre-là pour faire la somme de tous les fichiers qui s'y trouvent. Vous avez déjà vu, par deux fois les parcours d'arbres, que ce soit des arbres binaires ou des arbres généraux, en fait, le plus simple est d'aborder cet arbre avec un parcours préfixe, qui consiste en fait à dire, je vais parcourir l'arbre en profondeur d'abord, puis de la gauche vers la droite, et chaque fois que je vais tomber sur un fichier, je n'aurai en fait qu'à faire la somme de la taille de ce fichier avec la somme de tout ce qui reste par derrière. Donc le calcul devient assez simple, et effectivement il est représenté par ces trois lignes-là, qui consiste à dire, si on me demande de faire la taille d'un système de fichiers qui s'appelle système, alors, soit le système de fichiers, je prends son étiquette et c'est un fichier. Si c'est un fichier, il a une taille, et je donc dis, je réponds que la taille du système de fichiers, c'est la taille de... Donc, AG étiquette me permet de me donner le descripteur de fichier, et je demande à ce descripteur sa taille. Bien. Deuxième cas. Le descripteur, le nœud particulier sur lequel je suis, a une étiquette qui est un descripteur, et le descripteur me dit que le nœud n'est pas un fichier. Si le nœud n'est pas un fichier, sachant qu'on est dans un système de fichiers, ça ne peut être qu'un répertoire, et si c'est un répertoire, il faut que j'arpente tous les arbres du répertoire pour faire la taille récursive de ce sous-arbre. Eh bien, on va utiliser la graphie, rappelez-vous, assez compacte que l'on avait vue la fois dernière, qui consiste à dire... Je prends le système de fichiers et je lui demande la forêt associée. La forêt associée à un nœud, rappelez-vous, c'est la liste de tous les sous-arbres qui s'y trouvent. Donc, sur le nœud MI14MX, la forêt qui est ici, c'est la liste qui dit il y a cet arbre-là et cet arbre-là. Si j'avais à les marquer, vous avez un arbre ici un peu simple, un arbre ici un peu moins simple et un arbre ici beaucoup plus compliqué qui se trouve ici. Donc la forêt du nœud MI14MX, c'est en fait trois arbres, celui-ci, celui-là et celui-là. Les trois branches qui mènent de ce nœud-là aux trois arbres. Donc maintenant, pour chacun de ces arbres-là, j'applique récursivement avec map, DU-S, pour dire, donne-moi la taille de ce premier, puis la taille de celui-là, puis la taille de celui-ci. La récursion marche bien, puisque je demande maintenant la taille de sous-arbres, qui ont en fait une profondeur d'un de moins que l'arbre principal. Puisque maintenant je suis passé de ce nœud-ci à ses fils, j'ai diminué la taille des sous-arbres de 1. Donc conclusion, je converge bien vers des arbres qui vont devenir triviaux, c'est-à-dire des arbres qui sont soit réduits à un fichier, soit des répertoires réduits à une forêt vide, auquel cas je pourrais régler leur compte à tous ces cas-là. Maintenant que j'ai ici map, c'est-à-dire fabriquer la liste de la taille de chacun des sous-arbres, je n'ai plus qu'à dire, puisque maintenant j'ai la liste des tailles, il me suffit de dire que je veux faire la somme de ces tailles-là. Et là, l'idiome que l'on utilise à chaque fois, c'est de dire, eh bien, j'ai une liste de nombres ici qui est la liste des tailles, je n'ai plus qu'à la réduire avec l'opération binaire plus et l'élément neutre 0, et je condense toute la liste de ces tailles en la somme de ces tailles-là. Et donc, d'une certaine manière, le reduce plus de 0 ici, c'est une sorte de grand sigma qui permet de dire, je prends une suite de nombres et je les réduis en un seul nombre, qui est la somme de tous ces nombres-là. Donc, voyez maintenant le code entier. DU-S dit très simplement, soit le système de fichiers est trivial, c'est un fichier, je rends sa taille, soit il n'est pas trivial parce que c'est un répertoire, auquel cas je demande la taille de chacun des fils, et ensuite j'additionne la taille de tous ces fils-là. Et donc, j'ai réglé mon problème de DU-S, c'est exactement ce calcul qui se passe dans Mac, dans Windows, dans Linux, etc., quand on demande à déplacer un système de fichiers sur une disquette, un CD-ROM, etc., etc. Donc voilà le premier calcul, et vous voyez qu'effectivement, si maintenant je demande DU-S sur EX1 fichier, eh bien je vais obtenir la somme des tailles, c'est-à-dire 20 plus 80, 100, et 100, 200, 400, 400, 700 et 788. Donc j'obtiens bien ce qui a été marqué ici. Donc voilà en gros comment ça se passe, sauf que bien sûr, ça se passe niveau par niveau, puisque la récursion ici se fait niveau par niveau. Ici, on dit, il n'y a pas de taille, il faut d'abord faire la somme de toutes les tailles. La taille de cet arbre-là va donner une liste qui contient 20. Puis, on demande la taille de ce truc-là. Donc, récursivement, on va demander la taille de chacun des sous-arbres. La taille de chacun des sous-arbres, ça sera 80 et 100. Donc, ça sera cette liste-là. Et en réduisant cette liste-là, on obtiendra ici que 180 est la taille de cet arbre-ci. Pour connaître la taille de cet arbre-là, on rentre donc dans un niveau qui consiste à dire ça sera la somme des tailles de ce que j'observe au niveau inférieur. La somme des tailles au niveau inférieur, on retrouvera, alors on est à ce niveau-ci là, on trouvera un nœud à 200, un nœud à 88 et encore un truc qui demande d'aller à un niveau encore en dessous et qui permet de dire c'est 300. La somme de 300, c'est 300, donc on remonte 300 ici. Maintenant qu'on a tous les chiffres, 300 et 200, 500, 588, on remonte 588. Et maintenant qu'on a tous les chiffres, 20, 200 et 588, ça fait 788. Donc vous voyez effectivement que le calcul se fait strate par strate dans l'arbre, de manière récursive. Donc voici le premier utilitaire, très simple, qui permet effectivement simplement de dire, je sais vous donner la taille d'un système de fichiers. Donc maintenant on va regarder un second exercice qui est de dire, j'aimerais bien lister le contenu d'un répertoire. Alors, lister le contenu d'un répertoire, il y a des tas de façons. Vous pouvez le lister, je dirais, de façon plate ou de façon récursive. Mais notamment, quand vous êtes habitué à des Macintosh ou des PC, quand vous cliquez sur un répertoire et qu'il s'ouvre, en général, vous ne voyez que ce qui se trouvait dedans. Vous ne voyez pas récursivement le contenu des sous-répertoires, etc. Donc, l'idée là est de dire, par exemple, si je demande à lister le système de fichiers qui est là, ce que je veux faire, c'est imprimer ce genre de choses. Imprimer ce genre de choses, ce qui revient aussi à les montrer graphiquement, etc. Ce que je veux donc, c'est imprimer chacun des noms des fichiers ou des répertoires qui se trouvent, mais pour les fichiers, je veux indiquer la taille qu'ils ont au préalable, et pour les répertoires, comme ils n'ont pas de taille, je mets --- pour dire c'est un répertoire. Et vous remarquerez que le répertoire se termine par une barre de fraction, c'est la convention Unix. Donc je vois tout de suite ensuite que les fichiers ont une taille et que les répertoires n'ont pas de taille mais ont une barre de fraction en fin. Donc l'idée est de dire, j'aimerais bien fabriquer une fonction LL qui, quand elle prend un système de fichiers, est capable de me sortir cette chose-là. Vous voyez donc en fait que quand je clique dans ce répertoire-ci, en fait, je vais voir ces trois choses-là, et ce sont les trois choses qui apparaissent ici, sauf que ça c'est un fichier, il apparaît avec sa taille, et là c'est deux répertoires, et au lieu de faire un petit dessin d'un dossier, on représente --, pour la même chose. La chaîne de caractères qui se trouve ici correspond à un paragraphe. Alors, on a très brièvement esquissé auparavant ce qu'étaient lignes et paragraphes, et donc je vais reprendre un petit peu. Une ligne, c'est en fait une succession de caractères qui sont collés horizontalement. C'est-à-dire, comme par exemple ceci, vous avez une succession de caractères qui sont collés horizontalement. Ça correspond au sens, je dirais, classique de la ligne. Donc en particulier, une ligne n'étant qu'une succession horizontale, vous ne pouvez pas passer à la ligne parce que, par exemple, cet ensemble de deux choses ne forme pas une ligne, puisqu'en fait, on voit bien qu'on a un passage à la ligne ici qui permet de revenir en tête de la ligne suivante. Donc ce n'est pas ces deux lignes, ce n'est pas une seule ligne. Donc une ligne, c'est un collage horizontal de caractères. Maintenant, quand on écrit, en fait, on a besoin d'écrire plusieurs lignes. Donc on a un collage vertical qui correspond à dire un paragraphe, c'est un collage vertical de lignes. Donc vous avez deux structures qui sont en fait s'emboîtent. Les caractères accolés horizontalement forment une ligne. Les lignes accolées verticalement forment un paragraphe. Alors, c'est vrai que le mot paragraphe est un peu distordu par rapport à l'usage en ligne française, où un paragraphe, c'est un ensemble de lignes, en général, séparées des autres paragraphes par une ligne blanche. Donc là, en fait, on ne s'intéresse qu'à un paragraphe à un sens, je dirais, mathématico-informatique, c'est-à-dire un paragraphe, c'est un assemblage vertical de lignes. Que ces lignes soient pleines ou vides n'a aucune importance, c'est simplement qu'on prend des lignes et on les colle verticalement ensemble. Okay? Donc ce qu'on voit ici, c'est qu'effectivement on a bien trois lignes, et que les trois lignes étant collées verticalement, on a bien fabriqué un paragraphe de trois lignes. Et c'est ces entités qui correspondent à lignes et paragraphes, et pour lesquelles il existe une barrière d'abstraction, on ne souhaite pas manipuler la chaîne de caractères scheme qui commence avec le double guillemet ici et qui se termine avec le fameux guillemet. On ne souhaite pas la manipuler tout seul, on souhaite la manipuler à l'aide d'une barrière d'abstraction qui permet de dire je sais fabriquer des lignes, je sais fabriquer des paragraphes, quand j'ai un paragraphe je peux demander quelles sont les lignes qui sont dedans, je sais concaténer les paragraphes pour fabriquer des paragraphes plus grands, c'est toutes les fonctions de la barrière d'abstraction qui se trouve là. Donc l'idée maintenant est de dire je souhaite avoir une fonction qui permet de passer du système fichier qui est là à la description de ce qu'il y a dedans, à la description lisible de ce qu'il y a dedans, sous la forme d'un paragraphe qui est ici. Alors allons-y, regardons comment faire, et voici donc le début de ce code-là. Alors la fonction LL, voyez ici, possède une sous-fonction interne ici, et ensuite dit simplement, eh bien, je vais faire un paragraphe, c'est ce qu'on me demande, donc je fais un paragraphe. Ce paragraphe, il va être composé d'un certain nombre de lignes, c'est le résultat du map qui est ici, et ces lignes, en fait, vont être produites par la fonction descripteur-ll, fonction qui va s'appliquer à chaque nœud, en gros, de l'arbre que je considère. La fonction desk-ll va fabriquer une ligne. Donc, en fait, ici, je vais avoir un ensemble de lignes dont je vais former un paragraphe, c'est-à-dire les assembler verticalement. L'ensemble de lignes qui est ici, qu'est-ce que je lui donne? Donc je regarde la description qui est là et voyez qu'elle reçoit un descripteur. Et donc, je vois que ici j'ai un nœud. À partir du nœud, je peux obtenir le descripteur qui dit « je suis un répertoire MI14MX ». Et en fait, ce que l'on veut obtenir, c'est pas le contenu de cette chose-là, c'est la description de tout ce qui est contenu, c'est-à-dire dans les trois fils, dans les trois sous-arbres qui se trouvent là. Donc je prends le système de fichiers, j'en extrais sa forêt, c'est-à-dire les trois sous-arbres. Pour chacun des termes de la forêt, j'extrais l'étiquette. Donc ici, je vais avoir le descripteur de fichier exo2.scm 20 caractères. Ici, je vais avoir le descripteur répertoire TP2. Et ici, je vais avoir le descripteur répertoire TP3. Donc ce qui sort ici, c'est une liste de trois descripteurs, dont le premier est un fichier et dont les deux autres sont des répertoires. Et maintenant que j'ai ici trois descripteurs, et que ici je veux obtenir trois lignes, j'ai une fonction desk-ll qui me dit, moi, si vous me donnez un descripteur, je vais vous fabriquer une ligne qui représente ce descripteur-là. Donc tout le problème, en fait, a été ramené pour que d'écrire un système de fichiers ici, c'est simplement faire un paragraphe à partir des lignes résultant de la conversion de chacun des descripteurs des fichiers, des descripteurs des fils, en une ligne grâce à la desk-ll. Donc regardons maintenant de façon plus précise, desk-ll dit Je prends un descripteur et je vais fabriquer une ligne. Une ligne, c'est quoi? Rappelez-vous, c'est la concaténation de caractères horizontalement. Il n'y a pas d'opérateur particulier pour manipuler les lignes en scheme, parce que c'est un concept qu'on a uniquement dans nos têtes. En fait, une ligne en scheme, c'est, avec nos conventions, une chaîne de caractères qui ne contient pas de retour à la ligne. Et une chaîne de caractères qui ne contient pas de retour à la ligne, c'est simplement des caractères qui sont accolés horizontalement. Donc, j'ai utilisé un concept beaucoup plus large qui est la chaîne de caractères en scheme pour dire, je représente le cas très particulier des lignes que je définis être des collages horizontaux de caractères. Donc, mon opérateur de concaténation horizontale, c'est string append, et je vais fabriquer à partir du descripteur la description de ma ligne. Comment fais-je? Eh bien, premièrement, rappelez-vous que les premières choses qui apparaissent sur la ligne, c'était, si je reprends le résultat ici, c'est la taille. La taille, c'est la taille si je suis un fichier, et c'est tiré si je ne suis pas un fichier. Donc, pour ce faire, eh bien, je fais un if ici qui dit, si je suis un fichier, alors je sors la taille, et si je ne sors pas la taille, alors je sors la chaîne de caractères. Et là, on a un premier petit problème qui est que, il y a un problème de typage, qui est que la taille, c'est un entier, mais la chaîne de caractères, c'est une chaîne de caractères. Et donc, voyez bien ici que vous avez une alternative qui, dans un cas, vous rend un nombre, et dans l'autre cas, vous rend une chaîne de caractères. Or, ce que je veux, c'est que dans tous les cas ici, j'ai une chaîne de caractères, puisque string append ne sait concaténer que des chaînes de caractères. Pour cela, je consulte la carte jaune, et je m'aperçois qu'il y a un opérateur un peu magique qui s'appelle flash string, qui dit, si vous me donnez n'importe quoi, je vous le convertis en une chaîne de caractères. Alors c'est impeccable, je lui donne un nombre, et quand je lui donne un nombre, il me rend la chaîne de caractères correspondant à ce nombre-là. Donc ici, j'ai un nombre, il sera converti en une chaîne de caractères. Et l'intérêt de la fonction ici string, c'est que si je lui donne une chaîne de caractères, eh bien il ne la convertit pas parce qu'il me dit c'est déjà une chaîne de caractères, donc c'est celle que je rends. C'est-à-dire qu'il se comporte comme l'identité sur les chaînes de caractères. Donc, que je rende un nombre ou une chaîne de caractères, dans tous les cas ici, j'ai bien une chaîne de caractères qui correspond donc au premier caractère que j'ai sur la ligne que je fabrique. Ensuite, j'ai un petit problème qui est que, si vous regardez bien ça, en fait, vous apercevez que les fichiers ici apparaissent à une colonne fixe. C'est-à-dire, vous les voyez tous apparaître bien alignés ici. Alors, une façon simple de faire ça, c'est d'utiliser un caractère très spécial des claviers qu'on appelle la tabulation. La tabulation est un caractère qui dit « Déplacez-vous, s'il vous plaît, à la prochaine tabulation ». Alors, la prochaine tabulation, ce n'est pas quelque chose dont la sémantique est, comment dire, connue, puisque la tabulation, si vous avez déjà vu des machines à écrire, des vieilles machines à écrire, en fait, vous aviez des petits taquets qui permettaient de régler les tabulations aux endroits où vous souhaitiez. Quand vous regardez un système de traitement de texte, que ce soit Word ou pas, vous avez des petits machins qui ressemblent à des taquets que vous pouvez positionner pour dire « quand je fais table, je vais à tel endroit ». Bien. On n'est pas dans un système très compliqué ici. On est en fait dans ce qu'on appelle de la scie pure. Et la tabulation, en général, sur les écrans classiques, est réglée pour être de 8 en 8. C'est-à-dire que quand vous êtes à un endroit et que vous faites tabulation, vous vous déplacez sur la frontière de la première lettre qui est congrue 0 modulo 8. C'est-à-dire qu'en fait, ici, vous devez avoir 6 blancs. C'est probablement le cas. Je ne sais pas trop. Il y a 1, 2, 3, 4, 5. Non, 5 blancs. Donc ça fait 7 et un 8. Donc 8, effectivement, est bien congru ici. Vous êtes sur le 8e caractère qui est bien congru 0 modulo 8. Donc la tabulation, quelle que soit la taille qui est ici, que ce soit un chiffre, deux chiffres, trois chiffres, quatre chiffres, cinq chiffres, six chiffres, vous permet de vous remettre bien correctement ici. Alors, pour insérer une tabulation, vous avez ici, c'est pas dans la carte de référence, il y a une notation un peu particulière pour dire le caractère tabulation, c'est cette notation-là, vous pouvez l'oublier immédiatement. Et comme ici j'ai un caractère, mais que string append, rappelez-vous, prend des chaînes de caractères, je convertis le caractère en une chaîne de caractères qui contient cet unique caractère. Bien. Donc maintenant, j'en suis à, j'ai représenté les tailles, J'ai sauté le nombre de blancs, donc maintenant il faut que j'imprime le nom de la chose. Le nom de la chose, c'est simple, c'est le nom du descripteur. Et maintenant que j'ai fait ça, rappelez-vous, il y avait une dernière condition qui était que pour les répertoires étaient suffixés par une barre de fraction. Donc là encore, le code est trivial. Lorsque le descripteur est un fichier, je ne rajoute rien derrière, la chaîne vide. Et quand le descripteur n'est pas un fichier, c'est-à-dire c'est un répertoire, je rajoute un slash à la fin, une barre de fraction. Et donc maintenant, ce faisant, j'ai effectivement, avec cette fonction-là, converti un descripteur en la fameuse ligne qui se trouve ici et qui, dans le cas d'un fichier, est taille, tabulation, nom, et dans le cas d'un répertoire, est tiret, tiret, tabulation, nom, barre de fraction. Donc là, vous avez effectivement, je dirais, ici, l'algorithme qu'utilise n'importe quel système. Alors, bien sûr, dans des mondes graphiques comme Mac et Windows, l'algorithme est plus compliqué puisqu'il faut bien mettre les répertoires, je ne sais pas quoi, 4 par ligne, les faire apparaître, mettre une barre de défilement, etc. Mais c'est le même type d'algorithmique qui consiste à traduire chaque descripteur en soit une icône, soit un petit dessin, soit un traitement particulier qui permet effectivement de le convertir en quelque chose d'affichable picturalement à l'écran. Alors, le dernier utilitaire qu'on va voir, c'est un utilitaire de type find qui permet de dire, maintenant, ce par quoi je suis intéressé, c'est, voyez, je donne une chaîne de caractères ici, et je cherche dans le système de fichiers toutes les choses qui portent ce nom. D'accord ? Donc vous dites par exemple, essaye de trouver exo 8 dans le système fichier qui est là, et il vous répond deux lignes qui sont, il y a une réponse qui est un exo 8 dans TP2 dans MI14MX, et une autre réponse qui est qu'il y a aussi un exo 8 dans TP3 et dans MI14MX. Donc c'est un utilitaire assez simpliste là, qui consiste à dire, si vous me donnez une chaîne de caractères, je vais vous chercher dans le système de fichiers à tous les endroits, les fichiers ou les répertoires qui portent ce nom. Et donc là, ce qu'on voit, c'est qu'on va avoir encore une fois, maintenant, un parcours entier de l'arbre, de manière à, en chaque nœud, trouver si le nœud ne porte pas le nom que je cherche. Si le nœud possède le nom que je cherche, je vais rendre non pas le nœud particulier, ni même un booléen pour dire « on a trouvé ». Vous voyez, je ramène le nom complet partant de la racine et allant sur le nœud particulier où j'ai trouvé ma réponse. Et c'est pour ça que je réponds donc le chemin qui permet de dire « voilà un chemin qui mène à exo 8 et voici un autre chemin qui mène à exo 8 ». Donc c'est là le but maintenant de ça. Alors, on voit que là c'est un parcours, mais c'est un parcours un peu plus subtil parce que non seulement il faut parcourir pour essayer de trouver exo 8, mais il faut, au moment où on le trouve, être capable, par exemple je trouve un exo 8 ici, il faut être capable au moment où je trouve ça, de pouvoir engendrer le nom complet qui mène à cet exo 8, c'est-à-dire MI14MX slash TP2 slash exo 8. C'est-à-dire que non seulement on arpente l'arbre, mais il faut mémoriser ce que l'on est en train d'arpenter de manière à savoir quel est le nom absolu, le nom complet, qui permet de trouver le fichier ou le répertoire particulier. Donc voici la difficulté, et donc voici en gros un peu la structuration du code que l'on pourrait voir, qui consiste à dire, pour trouver un nom dans un système, alors, eh bien, première fonction, je cherche dans un sous-système, et là ici je mémorise le préfixe qui permet d'y mener, et ici, un find foret qui est un peu l'équivalent, qui consiste à dire je cherche dans tous les sous-arbres de la forêt F avec ce préfixe-là. Alors, avant de rentrer, et donc le code final, c'est de dire simplement je cherche dans le système tout entier avec un préfixe vide. Alors, je reviens sur cette structuration. Ce que j'ai dit, c'est que on va chercher, profondeur d'abord gauche-droite dans l'arbre, on cherche systématiquement partout. Le problème, c'est que quand je trouve, c'est bien d'avoir trouvé, mais le fait d'avoir trouvé le nœud qui s'appelle exo 8, ne me dit pas comment il s'appelle, c'est-à-dire quel est le chemin qui, en partant de la racine, permet d'aller à exo-8. Ce qui veut dire en fait que, si j'essaye de représenter un petit peu ce qui va se passer, il faut que j'arpente l'arbre, mais que je garde suffisamment d'informations pour savoir qu'est-ce que je suis en ce moment en train de regarder. Et donc voici un petit peu comment ça va se passer. Je vais dire d'abord, je cherche à ce niveau-là, et le préfixe en fait c'est la chaîne vide. Puis ensuite, je vais chercher dans ce sous-arbre-là. Et quand je vais chercher dans ce sous-arbre-là, le préfixe en fait, ça sera MI14MX slash. Ce qui veut dire que si je trouve, alors je n'ai plus qu'à prendre le nom et à coller derrière le préfixe et j'aurai gagné. Si je ne trouve pas, je laisse tomber. Je prends le deuxième arbre. Lorsque je cherche dans le deuxième arbre, j'ai un préfixe qui est encore une fois MI14MX slash. Et donc je cherche dans le deuxième arbre, je trouve exo-8, c'est ce que je cherchais, donc la réponse c'est MI14MX, excusez-moi, je cherche dans le deuxième arbre. Pour chercher dans le deuxième arbre, il faut que je cherche dans les sous-arbres, c'est-à-dire celui-ci et celui-là. Pour chercher dans ce sous-arbre, j'applique la même recette, récursivement, qui consiste à dire pour chercher à cet endroit-là, le préfixe maintenant est obtenu en concaténant le préfixe que j'avais reçu avec mon nom propre. C'est-à-dire que j'arpente l'arbre qui est ici en disant le préfixe c'est MI14MX slash TP2. Maintenant, avec ce préfixe, je regarde, je trouve, donc en concaténant le nom que j'ai trouvé et le préfixe, j'ai le nom complet qui me permet de mener à la chose. Je remonte d'un cran et j'attaque le second fils. Le second fils ici a comme préfixe exactement les mêmes, à savoir MI14MX slash TP2. Est-ce que exo-10 est égal à exo-8? Non, je laisse tomber, j'ai fini pour TP2, et donc je remonte ici et je vais donc travailler maintenant sur le troisième arbre. Je vais donc scruter le troisième arbre avec un préfixe qui est MI14MX. Pour scruter le troisième arbre, comme il a trois sous-arbres, il faut que je scrute le premier sous-arbre, le deuxième sous-arbre, le troisième sous-arbre. Donc, je vais scruter le premier arbre en disant le préfixe, c'est MI14MX slash TP3. Et maintenant, avec ce TP3, je regarde si je cherche le exo-8. Non, je remonte. Je vais donc descendre maintenant dans le deuxième arbre, mais avec le même préfixe, à savoir MI14MX TP3. Est-ce que exo-8 est égal à exo-8? Oui. Donc en concaténant exo-8 avec le préfixe MI14MX TP3, j'obtiens de nouveau une nouvelle solution. Donc voyez en fait maintenant qu'on est non plus dans un parcours d'arbre où on ne se soucie pas de savoir où on est, mais on est dans un parcours d'arbre où à chaque instant, on connaît le préfixe qui permet de partir de la racine et d'arriver sur le nœud où j'étais. Et donc ça, c'est en fait ce qui existe là-dedans. Find sous-système permet de dire, je vais chercher dans un sous-système particulier qui est là, mais le préfixe qui me permet de mener à ce sous-système en partant de la racine, c'est la chaîne de caractères qui se trouve ici. Bien, et donc maintenant, une fois que j'ai ça, je suis sur un nœud, je me pose une question de savoir effectivement est-ce que le nœud est solution ou pas, et si le nœud n'est pas solution ou qu'il soit solution, de toute façon il faudra que je parte en récursion sur les sous-arbres, et là, sous les sous-arbres, j'appellerai cette fonction-là pour dire « explore les sous-arbres » avec toujours le même préfixe qui se trouve ici. Donc regardons maintenant que vous avez l'idée générale, effectivement, comment ça se code de façon plus particulière. Alors, chercher, donc voilà en gros le code en un seul morceau. Non, ça c'est le code de find sous-système, etc. Donc find sous-système, rappelez-vous, dit je dois chercher dans un sous-système qui est ici avec ce préfixe-là particulier qui est le préfixe qui mène au sous-système où je suis. Donc là, on a deux choses. La première qui est que je suis sur un nœud avec un préfixe particulier, par exemple je suis sur le nœud TP2 avec le préfixe MI14MX. Pour pouvoir chercher exo-8, Il faut que je le cherche au niveau de ce répertoire, savoir est-ce qu'il ne s'appellerait pas exolite, et ensuite que je cherche dans les répertoires qui se trouvent en dessous. Donc on voit que le code effectivement est en deux morceaux, celui-ci et celui-là. Celui-ci traite le cas du nœud particulier, celui-ci traite le cas de tous les sous-arbres qui sont en dessous de ce nœud. Donc le cas du nœud se trouve ici. On dit simplement, est-ce que la chose que je cherche ne serait pas justement l'étiquette du sous-système où je suis? Le nom de l'étiquette où je suis. Donc le sous-système a une étiquette. Cette étiquette, c'est un descripteur. Un descripteur a toujours un nom. Et je compare le nom du descripteur avec ce que je cherche. Si c'est la même chose, alors j'ai gagné, puisque en concaténant le préfixe qui m'a mené à l'endroit où je suis et le nom du répertoire où je suis, qui, rappelez-vous, est égal à ident, j'obtiens ici le fameux nom qui m'intéresse. Et ce nom-là, j'en fais une liste de lignes que je mets dans un paragraphe, ce qui me permet ici de faire un paragraphe append qui me permet effectivement de concaténer des paragraphes. Donc ça, c'est que de l'enrobage qui permet effectivement de transformer la chaîne de caractères ici, qui est la solution, en quelque chose qui apparaîtra comme une ligne dans la concaténation des paragraphes. Si le nom que je cherche n'est pas égal au nom de la chose sur laquelle je suis, alors je réponds « pas de solution ». Et là encore, je convertis « pas de solution » en une ligne vide, qui est un paragraphe vide, et concaténer « append » un paragraphe vide à n'importe quoi permet d'avoir l'élément neutre des paragraphes, le paragraphe vide qui se trouve ici. Donc ça règle le cas ici qui est, j'arrive sur un répertoire dont je ne connais pas le nom, et je me dis, est-ce que le nom que je cherche ne serait pas le nom du répertoire? Si c'est oui, c'est une solution. Si c'est oui ou non, de toute façon maintenant, si je suis sur un répertoire, il faut que je continue à chercher dans les sous-arbres. Et pour continuer à chercher dans les sous-arbres, donc maintenant je dis, si le sous-système a une étiquette qui donne donc un descripteur, et que ce descripteur ne correspond pas à un fichier, alors c'est un répertoire, et donc je dois partir en récursion pour chercher dans les sous-arbres qui se trouvent. Donc chercher dans les sous-arbres qui se trouvent, c'est effectivement de dire, j'appelle la recherche dans la forêt, donc je suis sur ce nœud-là, et maintenant je cherche dans tous les sous-arbres qui sont dessous. Je dis donc maintenant que je cherche dans la forêt qui se trouve en dessous. Je cherche quoi? Dans la forêt qui est là du sous-système. Et je fabrique, puisque je suis arrivé sur mon nœud avec un préfixe, je dois chercher sur les sous-nœuds avec un préfixe qui est augmenté par mon nom. Donc je vais fabriquer un nouveau préfixe qui est le préfixe que j'ai reçu, mon nom à moi, et un slash pour indiquer que, effectivement, tous les préfixes se terminent par slash. Donc ce code-là me permet de dire, eh bien, si c'est un répertoire, je pars récursivement en dessous pour chercher les autres solutions, et si ce n'est pas un répertoire, je rends le paragraphe vide encore une fois. Donc maintenant, ceci rend un paragraphe, plein ou vide, suivant que j'ai pris des solutions ou pas. Ceci ramène un paragraphe plein ou vide, suivant que le nœud était une solution ou pas. Et je concatène ça et ça pour obtenir un paragraphe de toutes les solutions qui sont disponibles dans le sous-système que j'ai reçu ici. Donc vous voyez là, en fait, ce qu'il faut retenir en gros sur ces exemples-là, c'est que les parcours d'arbres ne sont pas forcément des parcours simples, mais peuvent en fait faire intervenir le chemin à partir de la racine qui mène à l'arbre particulier où on est. Et donc là, vous voyez que chaque fois qu'on regarde un sous-arbre, on a un paramètre d'appel qui dit « et ce sous-arbre se trouve actuellement à tel endroit de la racine ». Et c'est ça la chose importante, il n'y a pas que des parcours, je dirais, bestiaux comme le DU-S qu'on a vu qui consiste à additionner tout. Là, c'est un parcours plus sophistiqué puisque chaque fois qu'on est sur un nœud, on a d'une certaine manière le préfixe qui permet de partir de la racine et d'aller à ce nœud particulier. Alors, continuons avec, maintenant, des problèmes de représentation d'arbres généraux. L'idée, c'est que donc, on a parlé d'arbres généraux pendant longtemps, on a parlé de barrières d'abstraction, mais on vous a fait utiliser des arbres généraux, mais on ne vous a jamais donné, en fait, on ne vous a pas indiqué comment on pouvait fabriquer des arbres généraux. Donc là, maintenant, ce que je vous demande, c'est un effort absolument surhumain, c'est de vous mettre de l'autre côté de la barrière. C'est-à-dire, non pas en tant qu'utilisateur d'une barrière d'abstraction, à savoir utiliser AG étiquette, AG forêt, etc., mais de dire, maintenant, il existe une barrière, et on aimerait faire en sorte que je puisse écrire le code qui rend les services de la barrière, plutôt que d'utiliser, que de faire du code qui utilise les services de la barrière. Et c'est pour ça qu'on parle de barrière, puisque une barrière est fabriquée par quelqu'un et utilisée par quelqu'un d'autre. Donc maintenant, on demande un changement notoire, qui est de dire, maintenant, on vous demande non pas d'utiliser les fonctions qui se trouvent dans la barrière d'abstraction, mais de fabriquer les fonctions qui vont se trouver dans la barrière d'abstraction. La barrière d'abstraction est une sorte de contrat. De contrat qui lie les utilisateurs et ce qu'on appelle les implanteurs, les réalisateurs, les implémenteurs aussi en jargon. Le rôle des implémenteurs, c'est de dire, il y a un contrat et je dois vous faire des fonctions qui remplissent les services qui sont indiqués dans le contrat. J'ai le droit d'en faire plus, c'est mon problème, mais si je veux gagner de l'argent, il faut que j'en fasse strictement le minimum, le contrat. Les utilisateurs, ils ont un contrat et ils voient effectivement qu'il y a un certain nombre de fonctions qui ont des propriétés. Et ce à quoi ils sont en droit de s'attendre, c'est que les fonctions qu'ils vont utiliser ont bien les propriétés qui sont dans le contrat. Mais eux, a priori, n'ont pas à se méfier des fonctions de la barrière d'abstraction, ils les prennent comme telles et ils supposent qu'elles sont réelles, c'est-à-dire qu'elles existent et qu'elles implémentent bien, qu'elles respectent bien les termes du contrat. Quelqu'un qui utilise la fonction sinus, qui est en général offerte dans tous les systèmes d'exploitation, n'a pas à se méfier de la fonction sinus en disant... Et si elle ne me répondait pas à un nombre, vous savez qu'en scheme, toutes les valeurs ont un type, et il se pourrait très bien que quelqu'un, pour vous faire une blague, redéfinisse la fonction sinus pour vous ramener une chaîne de caractères. Bien. Quand vous utilisez une barrière d'abstraction, vous supposez qu'il y a un contrat qui est respecté, et comme ce contrat est respecté et que c'est le dogme, vous n'avez pas à vous prémunir contre cette barrière-là. Et à dire, et je vais quand même vérifier que c'est bien un nombre qui me rend, parce que, en fait, si vous vous méfiez de la barrière, vous n'avez aucun moyen de savoir si elle répond au contrat ou pas. Parce que, maintenant, vous pouvez vérifier que sinus vous rend bien un nombre. Mais qu'est-ce qui empêche sinus de vous répondre un nombre qui n'est pas le bon nombre? Alors, vous allez faire comment? Vous allez calculer vous-même votre propre sinus. Alors, sinus, c'est très simple. On prend, pour calculer sinus, en gros, on prend des polynômes du 7e, 8e, 9e degré. On casse l'intervalle 0 pi sur 2 en 3 sous-ensembles et on interpole la fonction sinus avec 3 arcs de polynômes sur ces 3 morceaux-là. Ce qui veut dire qu'on a réduit le calcul de sinus à, plutôt que de développer des séries, etc., à en fait calculer des polynômes du 7e, 8e, 9e degré. Mais qu'est-ce qui vous prouve que la multiplication est correcte? Rien. Alors après, vous dites, je vais faire la multiplication moi-même à la main avec que des additions. Mais qu'est-ce qui vous prouve que l'addition est correcte sur votre processeur? Rien. Donc au bout d'un moment, de toute façon, vous serez obligé de faire confiance à quelque chose. Donc le dogme est que quand vous utilisez une barrière d'abstraction, vous faites confiance à cette barrière et vous ne vérifiez pas qu'elle rend les services que vous exigez parce qu'ils sont justement dans le contrat. Et vous ne pouvez rien faire si vous vous défiez de tout le monde. C'est aussi vrai scientifiquement que socialement. Donc l'idée maintenant est de dire, on passe de l'autre côté de la barrière et on va devoir fabriquer une barrière. Donc il faudra répondre au contrat, vous avez le droit d'en faire beaucoup plus si vous le souhaitez, mais vous devez au minimum répondre au contrat de façon correcte. Et donc c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, comment représenter des arbres généraux? Il y a plusieurs méthodes, il y en a une infinité. Il y en a qui ont des propriétés particulières, des qui sont rapides, des qui sont faciles à implémenter, dès qu'ils sont bien vérifiables, dès qu'ils sont qui prennent beaucoup de mémoire ou qui n'en prennent peu, il y a plein de qualités qui font qu'on peut préférer pour certaines applications certaines implémentations de la barrière ou pour d'autres implémentations, d'autres implantations. Donc vous avez en fait, si vous regardez le CD-ROM et le cours qui se trouve sur le CD-ROM, vous avez une représentation des arbres généraux qui est faite avec des vecteurs, une structure de données qui existe en scheme et qui permet en fait d'avoir un accès aussi rapide à un élément de qui permet d'avoir un accès également rapide à tous les termes d'un vecteur. C'est-à-dire, demander la valeur de composante 0, d'index 0, ou la valeur d'index 1 million, à exactement la même vitesse sur la machine. Ce qui n'est pas le cas des listes. Parce que les listes, quand vous demandez le premier élément, vous faites quart, mais quand vous demandez le deuxième élément, vous faites quart du coup d'heure. C'est-à-dire deux opérations pour le deuxième élément, alors qu'il vous en faut qu'une seule opération pour le premier élément. Ce qui veut dire que les listes, en fait, ont un coût qui est différent suivant le rang de la donnée à laquelle vous voulez accéder. Et plus vous allez loin, plus ça vaut cher. Le vecteur est une structure compacte en mémoire, beaucoup plus que la liste, mais surtout qui a la propriété que accéder au premier, au deuxième, au troisième ou au millionième, ça prend toujours exactement le même temps. Donc les vecteurs sont une solution intéressante, mais ce n'est pas celle qu'on va voir aujourd'hui. On va voir une autre qui correspond à ce qu'on appelle les expressions symboliques et qui, en fait, d'une certaine manière, sont la raison d'existence de Lisp, qui est le langage ancêtre de Scheme. Alors, les expressions symboliques sont extrêmement bien faites pour représenter les arbres. C'est même la façon, je dirais, canonique de représenter les arbres en Scheme. Prenez ce genre d'expression. Ce genre d'expression, en fait, c'est une expression Scheme. Ça correspond effectivement à une multiplication de sommes et de nombres. C'est une expression arithmétique, comment dire, pas trop compliquée. En fait, vous avez tellement l'habitude de la voir sous forme d'un programme que peut-être vais-je vous demander un effort de penser, d'imaginer qu'en fait, ceci peut être vu aussi comme une liste de quatre choses. La première chose, c'est une étoile. La deuxième chose, c'est cette liste-là. La troisième chose, c'est une liste avec un plus et deux nombres. Et la quatrième chose, c'est un 36. Il ne vous a pas échappé que les données que vous manipuliez sous forme de liste et que les programmes que vous écriviez en Scheme avaient d'une certaine manière un certain goût de famille, un certain air de famille, puisque vous utilisez des parenthèses dans les deux cas. Eh bien, en fait, cette expression-ci, qui est une expression Scheme, est ce qu'on appelle une S-expression, c'est-à-dire une expression symbolique, dans lequel, en fait, oui, en Scheme, on a privilégié jusqu'à maintenant ce que l'on appelle les listes homogènes, c'est-à-dire les listes de nombres, les listes de chaînes de caractères, les listes de booléens. Mais en fait, il est aussi possible en Scheme de fabriquer des listes hétérogènes, c'est-à-dire qui contiennent n'importe quoi. Et les programmes sont des listes hétérogènes particulièrement intéressantes, puisque justement, c'est avec elles qu'on écrit les programmes. Donc ceci, en fait, est ce qu'on appelle plus généralement une expression symbolique, et on va en voir une définition un peu plus formelle. Une S-expression, c'est soit un atome, soit quelque chose qui a le type liste de S-expression. Donc vous voyez en fait que quand ça a le type liste de S-expression, ça veut dire que ça commence par une parenthèse ouvrante, ça contient des S-expressions, et ça se termine par une parenthèse fermante. Quand c'est un atome, alors c'est quelque chose qui répond à la règle de grammaire qui est là. Et un atome, exactement comme son sens, au sens, comment dire, physique, c'est-à-dire quelque chose qu'on ne peut pas couper, un atome, c'est soit un nombre, soit un booléen, soit une chaîne de caractères, soit un symbole, etc., etc. Donc toutes ces choses-là sont définies dans la carte de référence, et donc là, on a juste introduit la notion de S-expression qui dit une S-expression, c'est soit un atome, soit une liste de S-expressions. Et donc là encore, vous voyez que on a un procédé récursif pour définir les S-expressions. Et maintenant, vous pouvez vérifier que tous les programmes que vous avez écrits sont bien en fait des S-expressions, puisque chaque fois que vous introduisez une parenthèse ouvrante ici, vous êtes obligé d'introduire ici, et donc toutes les expressions bien parenthésées sont des S-expressions au sens de Scheme. Donc voilà les S-expressions. Donc maintenant, les S-expressions se manipulent avec des opérateurs et, d'une certaine manière, une certaine barrière d'abstraction aussi. Parce que c'est pas parce que les S-expressions sont en Scheme que vous savez pour autant qu'elles sont primitives. Peut-être que ce sont des objets construits, mais que vous ne le savez pas. Par exemple, actuellement, vous utilisez AB étiquette, AB nœud, etc. Mais qu'est-ce qui vous prouve que AB nœud et tout ça, ce sont des choses primitives qui existent en Scheme, ou des choses que nous, on a rajoutées? En fait, il y a une définition de Scheme qui existe et qui a été normalisée à l'ISO, etc. Et il existe une implantation de Scheme particulière, qui est Dr. Scheme, qui en est une parmi d'autres. Il se trouve que dans Dr. Steam, on a rajouté les bibliothèques particulières, donc les fameux BIAS Tools, que vous utilisez donc en TP, dans lesquelles on a rajouté un certain nombre de fonctions. Maintenant, ces fonctions-là qu'on a rajoutées, vous pouvez vous demander légitimement, est-ce qu'effectivement, si vous ne saviez pas tout ça, est-ce qu'elles existent dans Scheme ou est-ce qu'elles existent simplement dans les BIAS Tools? Eh bien, vous avez le même phénomène qui se passe ici. Conscar et Cluder existent en Scheme. Mais est-ce que les gens qui ont créé ce Scheme-là les ont créés comme primitives, c'est-à-dire comme choses qui doivent exister tout le temps, ou bien est-ce que Conscar et Cluder ont eux-mêmes été écrits en Scheme à l'aide d'un sous-ensemble plus réduit de Scheme? Vous ne le savez pas et vous n'avez aucun moyen de le savoir. Parce que le rôle justement d'une barrière, c'est de vous dire, il y a Conscar et Cluder qui s'utilisent comme ça, point. Et vous ne savez pas si en fait, ces choses-là n'ont pas été elles-mêmes construites avec une autre barrière plus loin, mais que vous ne pouvez pas voir, puisque c'est après la barrière. Alors, Conscar et Cluder sont des fonctions qu'on vous a introduites il y a très très longtemps quand on a introduit les listes. Cons qui est le constructeur, car et Cluder qui permettent effectivement d'accéder au premier terme ou aux autres termes d'une liste. Donc tout ça est bien connu. Et en fait, ce que je dis là, c'est que Conscar et Cluder non seulement peuvent travailler sur les listes exactement comme on vous l'a appris, mais ils sont aussi capables de travailler sur des S-expressions, comme on va le voir. Cons est une fonction qui, rappelez-vous, avait une certaine signature qui disait, si vous avez cons, un terme de nature alpha et une liste de termes de nature alpha, alors le résultat est une liste de termes de nature alpha. Et donc ça, c'était la signature de cons. Vous aviez la signature de Carr qui disait, si vous avez une liste de alpha, et que cette liste est non vide, alors je vous sors un terme alpha, et Cluder qui disait à peu près la même chose, à savoir, si j'ai une liste de alpha qui n'est pas vide, non vide, alors je suis capable de vous sortir une liste de alpha. Donc ça, c'était les trois signatures des trois fonctions Conscar et Cluder standard sur lesquelles on travaillait avec des listes homogènes. Eh bien, il se trouve que Conscar et Cluder, en fait, ont aussi d'autres signatures qui permettent de les utiliser dans des cadres plus vastes. Et donc, voici les signatures particulières. Cons dit, si vous me donnez une S-expression et que vous me donnez une autre S-expression, je vous ramène une S-expression. Maintenant, il y a une règle qui dit, si vous me donnez car et que une S-expression répond vrai à paire point d'interrogation, alors je vous rends une S-expression. Et la même chose pour Cluder. Si j'ai une S-expression qui répond vrai à paire, alors ça rend une S-expression. Et donc là, vous voyez que vous avez des signatures, en fait, qui sont plus riches, ou plus larges, ou plus floues que les signatures qui se trouvent ici. Et c'est ce que l'on voit, en fait, au niveau de l'implémentation qui est ici, où, pour fabriquer un nœud d'un arbre général AG, dans lequel j'ai une étiquette et une forêt, eh bien, je me contente de faire cons de E et de F. C'est-à-dire que je cons l'étiquette et la forêt, ce qui n'a pas de sens au niveau du typage qui se trouve ici, mais qui a du sens au niveau du typage plus laxif qui se trouve ici. Et j'ai fabriqué en fait un machin qui est tel que si je demande le quart de ce cons, je récupère l'étiquette, et si je demande le coudeur de ce cons, je vais récupérer la forêt qui est là. Ce qui fait que l'implémentation de l'étiquette d'un arbre général G, c'est-à-dire quart de G, et l'implantation de la forêt de G, c'est simplement de prendre le coudeur de G. Ce qui fait que la règle que j'avais mentionnée algébrique, qui disait que le quart du cons c'était le premier argument et que le coudeur du cons c'était le deuxième argument, en fait, vous le retrouvez ici. Si vous écrivez quart de cons de alpha et bêta, on ne va pas prendre alpha et bêta, de pi et pi prime, pour dire c'est des programmes, eh bien ça c'est la même chose que pi. Vous prenez deux choses, grâce à cons, vous les mélangez en une seule, vous reprenez le quart, vous retrouvez exactement la première des choses que vous avez prises. Si maintenant vous écrivez coudeur de cons de pi et de pi prime, vous avez la même chose que pi prime. C'est-à-dire que ces identités algébriques-là généralisent celles qu'on avait vues sur les listes homogènes au tout début des listes. Et donc c'est ça qui fonde le fait que ces règles-là étant vraies, si je fais un cons de l'étiquette et de la forêt, je peux retrouver l'étiquette avec le cœur et retrouver la forêt avec le coudeur qui se trouve ici. Donc voilà en gros l'implantation par les S-expressions, ce qui rend effectivement la chose extrêmement simple. AG nœud, c'est en gros un cons déguisé. AG étiquette, c'est un quart déguisé. Et AG forêt, c'est un coudeur déguisé. Et en fait, il n'y a guère plus là-dedans que ce que je viens d'y mettre. Alors, si je reprends des expressions arithmétiques, donc si je reprends l'expression qui est là, je vais vous montrer maintenant un autre type de calcul que l'on fait sur les arbres généraux, mais au lieu de les faire sur les arbres généraux, je vais le faire sur les S-expressions, directement. Ce que l'on voit, c'est que l'expression qui est ici, en fait, représente quelque chose qui n'est pas loin d'un arbre, puisque cette chose-là que j'ai représentée par cette expression-ci, c'est, si je la reprends sous la forme d'un arbre, on a une étoile, avec ici un plus, avec ici une étoile, avec ici 90 et 10, le plus ici j'ai 100, le étoile ici j'ai plus, 20, 80, et j'ai encore un argument qui est 36. Donc si vous regardez cette expression-ci, vous voyez en fait qu'elle correspond à cet arbre général ici. Et ça, ne sont que deux graphies particulières de la même chose. Et c'est pour ça qu'on vous a fait travailler sur on prend un arbre et on fait produire l'expression parenthésée préfixée équivalente, mais on peut tout aussi prendre l'expression préfixée ici et fabriquer cet arbre-là. D'accord ? La raison d'être, en fait, de ces expressions, c'est que ces expressions s'écrivent simplement, alors que si vous aviez à écrire l'arbre ici avec des AG nœuds, etc., vous auriez une expression qui est beaucoup plus grande. Il faudrait écrire AG nœud de côte étoile, d'ailleurs je crois que je l'ai juste après. Donc voici l'arbre correspondant que j'ai redessiné ici. Et si vous voulez effectivement le créer avec des étiquettes, AG nœud, liste, AG nœud, etc., voilà l'expression tout entière qui recréerait cet arbre avec la barrière d'abstraction des arbres généraux. D'accord ? Ce que je dis en fait, et c'est ce en quoi les expressions symboliques sont intéressantes, c'est que cette expression symbolique, c'est cet arbre, et cet arbre, c'est aussi l'expression qui est là. Simplement, cette expression-ci fabrique l'arbre, elle est relativement complexe à écrire, alors que l'expression qui se trouve ici est beaucoup plus simple à écrire directement. C'est pour ça en fait que dans un grand nombre de problèmes quand on est en scheme, on préfère pas forcément passer par la barrière d'abstraction des arbres généraux, mais écrire directement dans la représentation interne de la machine qui est cette représentation-ci et qui est suffisamment lisible pour, bien sûr, faire les mêmes calculs. La raison est que d'avoir fait passer par la barrière des arbres généraux, c'était de vous montrer qu'en fait, même si on écrit avec des conventions d'écriture qui travaillent directement sur les S-expressions, on travaille sur les S-expressions exactement comme si on était avec les arbres généraux. C'est-à-dire qu'on travaille avec un codage un peu spécial qui consiste à dire quand je lis ceci, j'ai en fait ça dans la tête, même si je l'ai construit avec ça. Et du coup donc, lorsqu'on a ça dans la tête, le bon schéma, c'est celui qu'on vous a enseigné, à savoir une récursion sur un arbre général, c'est le traitement d'étiquette, puis le traitement de tous les sous-arbres et la réunion de la valeur du traitement sur chacun des sous-arbres en une unique valeur. Donc c'est le schéma général de récursion sur les arbres généraux. Et que vous ayez rentré votre arbre avec la barrière qui se trouve ici ou directement avec cette expression-ci, en fait vous travaillez bien sur cette structure-là dans votre tête. Maintenant, lorsque vous travaillez avec cette structure-là dans votre tête et que vous avez rentré votre arbre comme ça, rien ne vous empêche de travailler, lorsque vous commencez à devenir, efficace, à travailler avec directement les cons, quarts et coudeurs avec les sens que cons carré coup d'œil sur cet arbre correspondent à AG nœud, AG étiquette, AG forêt. Alors, il y a deux avantages. Il y a un avantage plutôt et un inconvénient. C'est que lorsque vous travaillez avec AG nœud, AG forêt, etc., le jour où vous apercevez que le problème particulier que vous avez n'utilise pas une représentation d'arbre général efficace, vous pouvez changer votre représentation, c'est-à-dire changer l'implantation de votre barrière d'abstraction. Vous n'avez rien changé à vos algorithmes. Vous avez bien vu que, par exemple, si je prends DU-S pour travailler sur un arbre général, je peux changer la façon dont je représente mes arbres généraux, mon algorithme DU-S ne change pas, ce qui veut dire que ça ne casse pas de code. Si par contre, j'ai utilisé Conscar et Couder, il faudra que je réécrive tout mon code le jour où je changerai de représentation d'arbre. Donc il faut bien voir le compromis, qui est que pour avoir du code réutilisable, modifiable, il faut souvent écrire des choses plus compliquées que le simple petit programme qui obtient la réponse instantanément. Le coût de rendre ces programmes immunes à certains changements n'est pas négligeable, il a un coût et donc il faut le prévoir. Donc on a le choix entre soit écrire des programmes qu'on appelle quick and dirty en général, qui correspondent à des programmes qui ne servent qu'une seule fois et qu'on jette après, et l'autre choix qui est d'écrire des programmes beaucoup plus compliqués mais qui seront plus résistants plus tard à d'éventuels changements de leur environnement, de la représentation des arbres ou de vos nouvelles idées. Mais ça a un coût. Donc si vous faites les choses une seule fois, prenez la méthode simple. Si vous suspectez quand vous faites les choses la première fois que vous allez devoir le faire plusieurs fois et faire des variantes, écrivez proprement avec les bonnes barrières d'abstraction tout de suite. Et donc c'est un peu la même différenciation entre effectivement faire un bricolage qui ne doit pas durer ou faire quelque chose d'harmonieux et d'efficace qui lui est fait pour durer et qui bien sûr prend plus de temps, plus de ressources, plus d'argent, etc. Alors, on est presque à la fin et donc je voudrais vous montrer comment maintenant, lorsqu'on a cet arbre-ci, le dernier calcul que je voudrais vous montrer, c'est, je suppose que j'ai un arbre comme celui-ci, et en fait je dis, mais attendez, cet arbre-là, il représente une expression arithmétique. J'aimerais bien savoir quelle est la valeur de cette expression arithmétique. Et donc d'une certaine manière, ce que nous allons faire, c'est écrire une fonction qui, quand elle prend ça, est capable de vous donner la valeur de cette expression-ci. C'est-à-dire en fait, un évaluateur qui, quand on lui donne des expressions arithmétiques, est capable de rendre la valeur de ces expressions arithmétiques. Et si vous en avez, l'opportunité, vous pourrez méditer sur le fait qu'en fait, comme j'ai dit que tous les programmes Scheme étaient représentés comme des S expressions, le petit morceau de code qu'on fait ici et qui va prendre une expression, c'est-à-dire un arbre, et le transformer en sa valeur, vous pourriez vous dire, mais alors Scheme, quand il prend une expression avec des define, etc., il fait exactement la même chose, à savoir une évaluation qui prend un programme et qui est capable de me rendre la valeur de ce programme-là. Alors, cet évaluateur, ça existe, c'est quelque chose qu'on enseignait jusqu'à il y a 2 ans. Le fait d'avoir fait un peu plus d'algorithmique maintenant fait qu'on n'enseigne plus, mais on va juste vous donner donc un certain nombre de points de repère vous permettant de comprendre un peu comment c'est fait un évaluateur, Scheme ou autre, qui est donc capable de prendre des programmes représentés par des arbres généraux et de vous calculer la valeur qu'auraient ces programmes-là. Alors allons-y, regardons comment écrire un évaluateur d'expression arborescente avec, en supposant que les seuls opérateurs sont plus et étoile, pour simplifier les choses actuellement. Alors, voyez ici le type, je prends une expression arithmétique arborescente et je veux rendre le nombre correspondant à ça. Eh bien, je dis la chose suivante, je vais donc avoir maintenant un parcours sur cet arbre-là, et là, je ne parle plus de S-expression, de nœuds, etc., ou de barrière d'abstraction. Je vais travailler avec la barrière d'abstraction ici. J'ai cet arbre-là. Quelle est sa valeur? Eh bien, si l'arbre est une feuille, comme par exemple 36, 20, 20, 100, etc., si l'arbre est une feuille, la valeur d'un nombre, c'est lui-même. Donc 100 est égal à 100, 80 est égal à 80. Donc la valeur d'une feuille c'est le nombre lui-même. D'accord ? Maintenant, quelle est la valeur, et donc c'est l'étiquette, on trouve son nom. Quelle est la valeur d'un nœud, comme par exemple celui-ci ? Eh bien, j'applique le schéma général de récursion qui consiste à dire, pour trouver la valeur d'un nœud comme celui-ci, je trouve la valeur de tous ces sous-arbres, donc ici je trouve par exemple 900, ici je trouve 100, et ensuite je n'ai plus qu'à faire l'opération qui m'a été demandée par l'étiquette. Donc premièrement, j'applique sur la forêt, donc je suis ici, je dis quelle est la valeur de ce nœud-là. J'applique sur la forêt qui est ici, l'opération évaluer arbre sur chacun des sous-fils. J'obtiens donc une liste qui est que pour, à ce nœud-ci, les deux sous-arbres qui sont là et là, celui-ci vaudra 90 fois 10, 900, et celui-ci vaudra 100. Donc j'obtiens en fait à cet endroit-ci et largue, liste des arguments, j'obtiens la liste des valeurs des sous-arbres, à savoir 900 et 100. Bien, donc maintenant j'en suis réduit à dire, j'ai la liste 900 et 100, qui sont les valeurs des sous-arbres, j'ai l'étiquette plus, qu'est-ce qu'on me demande de faire? L'addition de ces deux valeurs-là. Et donc, je vais dire simplement, je prends l'étiquette, c'est un plus, l'étiquette, je vais la convertir en l'opération d'addition, parce que plus, c'est un symbole qui dit, plus, c'est une croix. Maintenant, il faut que je convertisse cette croix en l'opération d'addition, la fonction d'addition. La fonction d'addition est indépendante de son nom. D'ailleurs, dans les anciens schemes, dans les anciens Lisp, pardon, il y a très longtemps, on n'écrivait pas plus sous cette forme-là, ici, on écrivait plus P-L-U-S. Mais ce qui montre bien, c'est qu'il faut que je passe de ce symbole-là, qui désigne l'addition dans notre culture, pour dire, bah maintenant je veux la fonction d'addition, et la fonction d'addition, je veux l'appliquer aux arguments qui sont là. Donc, il ne me reste plus qu'à expliquer ce que c'est que l'opération et l'application qui est ici. Alors allons-y. L'opération, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, si vous me... Elle prend un opérateur, c'est-à-dire un nom, comme plus ou étoile, et elle me convertit, elle me dit, si l'opérateur est égal à plus, alors je rends la fonction d'addition, et si l'opérateur est égal à étoile, je rends la fonction de multiplication. D'accord? Donc maintenant, si je reviens donc à mon exemple précédent, ici j'ai pris l'étiquette, qui est le symbole plus ou le symbole étoile, et rappelez-vous d'ailleurs que l'étoile en schéma désigne la multiplication, mais si vous regardez le langage mathématique, ce n'est pas l'étoile qui désigne la multiplication, c'est la croix. Okay, ce qui montre bien en fait que le concept de multiplication n'a rien à voir avec la façon dont on le note. En maths, on note la multiplication quelquefois par un point, quelquefois par rien du tout, hein, quand vous écrivez 2x, la multiplication n'est même pas notée, ou par une croix. Il se trouve qu'en schéma, on la note par une étoile. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la croix sur les claviers. Donc, l'idée est que opération prend l'opérateur et le convertit en la fonction d'addition ou la fonction de multiplication particulière. Maintenant, il ne reste plus qu'à appliquer une fonction sur des arguments. Et là, en fait, on retrouve un processus simple de reduce qui consiste à dire, s'il y a des arguments, alors je fais un... j'applique l'opération binaire sur le premier des arguments et sur l'application récursive du même opérateur sur le reste des arguments. Vous retrouvez un reduce assez simple. Et dans le cas où il n'y a pas d'argument derrière, alors c'est un opérateur unaire. Je ne me souviens pas qu'on avait prévu le cas. Un opérateur unaire qui applique sur le premier des arguments. Donc ce que vous voyez en fait ici, et si je reprends là, le calcul sur ce nœud-ci dit, je calcule récursivement, j'obtiens 900, je calcule récursivement, j'obtiens 100, je convertis plus en l'addition, et j'additionne ces deux nombres-là. Le résultat devient 900 plus 100, 1000. Pour ce nœud-là, je pars récursivement, la valeur récursive de ça c'est 20, la valeur récursive ici c'est 80, donc plus est appliqué sur la liste 20, 80. Plus est converti en l'addition, 20 et 80 avec l'addition donne 100. 36 est égal à 36, Ce qui fait en fait que maintenant, j'ai au niveau de ce nœud-là, la liste qui dit il y a 1000 pour la valeur de ce premier sous-arbre, il y a 100 la valeur de ce deuxième sous-arbre, et il y a 36 la valeur du troisième sous-arbre. Et bien maintenant, je dois faire une multiplication, c'est-à-dire convertir l'étoile en la multiplication, puis multiplier tous ces termes-là 2 à 2. Et donc, si je reprends le code de l'application, c'est 1000 fois le produit de ces deux-là. Ces deux-là donnent 3600. Et 3600 fois 1000 donne le résultat final, à savoir 3600 et 3 zéros. Donc 3 600 000. Et donc, ce que vous avez vu, en fait, c'est que avec ce petit bout de code et simplement les fonctions ici de conversion d'étiquettes en des fonctions d'addition ou de multiplication, j'ai réussi à prendre maintenant un arbre représentant une expression arithmétique et à calculer sa valeur. J'arrêterai ici.